Bonjour, vous êtes bien sur Radio B 90 FM, la radio des bonnes ondes, avec Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire, celle du mois de février. Cette fois-ci, je me consacre à des drames terribles, suivis d'un changement de cap. Des drames qui se déroulent en France, en Italie et en Espagne. Et je commence cette émission avec de la poésie. Retour au pays de Claire Garnier-Tardieu. C'est vraiment une découverte sensationnelle. Un recueil de 25 poèmes. Retour au pays de Claire Garnier-Tardieu. Édité aux éditions des Deux Rues qui se trouve, qui est un éditeur de Bourg-en-Bresse. Des Deux Rues, je vous donnerai l'adresse après. Je vais lire quatre poèmes, mais tous seraient à lire, bien sûr, mais pour vous mettre l'eau à la bouche. Et vous allez voir qu'il vient de recevoir un prix, le prix de la poésie Histoire et Mémoire 2021, et c'est tout à fait significatif. Le premier, tu viens à moi. C'est un souffle, un murmure, un bruit d'herbe, de pieds nus, l'air un peu plus épais, un début de douleur. Tu viens à moi. Par les planètes, par les semences de voies lactées et les jardins germés, par les sentiers, les torrents, les cascades, par les brasiers, par l'eau claire des fontaines, le fracas des rochers, par la gentiane et le genêt, par tous les vols qui déchirent le ciel, tous les pas qui sillonnent la terre. Par les mots, les échos, les prières, les souvenirs enfouis, les oublis, les poussières, par tous les univers engrangés dans les pores de la peau, par les soleils et les jasmins fleuris, un mot de trop sur la bouche, par un corps, par un pays, par les sommeils entre soir et matin, par un printemps sans hiver sur les mains. Ça, c'est le premier poème. N'est-ce pas que c'est très beau? Le dernier, ils ont dû en retrouver là-haut des myrtilles bleues et des fraises des bois, juste avant de livrer un premier assaut dans le bel été chaud qui n'en finissait pas. Oui, nous sommes sur le plateau de Lozère. C'était la vie des plateaux de Lozère. Le labeur quotidien et l'attente de ceux qui peut-être ne reviendraient pas. Effectivement, avec la guerre de 14, beaucoup d'hommes ont abandonné leurs travaux pour aller à la guerre. Et malheureusement, on sait que beaucoup ne sont pas revenus. Le troisième poème me semble aussi très significatif. C'est un peu la vie d'autrefois. Ça s'appelle la Festa del País. C'est la Festa del País. On s'amuse à autrefois. On a ressorti les vieilles batteuses à vapeur qui séparent le grain de la paille. À grand crachat de fumée noire et de poussière. Là-bas, on fauche à la main, encore plus haut dans le temps d'avant les banquiers. Avec la faucille et les bras, il en fallait des paires de bras pour le foin et les blés, et l'orge et l'avoine. Tout s'y allait, la fleur à la bouche. Hommes, femmes, enfants, il n'y avait guère que les vieillards et les impotents pour se mettre à la fraîche sous les aulnes, avec les nouveau-nés, les moissonneurs du futur, et pour apprécier de loin ces grands gestes blonds, si familier, le jet de la botte, ni ronde ni carrée, simplement elle, un peu échevelée, au bout de la fourche, jusqu'au sommet de la charrette. Le cheval patiente, en plein soleil, il aurait l'eau bientôt, et les faucheurs le vin. Un vin pas si fort qu'aujourd'hui, le fromage et le pain. Et l'on dormirait bien ce soir, à découvert sur le lit nu. Il devait être fort beau, ceux de l'été 14, qui sont partis à la guerre, bien sûr, les muscles arrondis, les foins étaient finis, tous les prés alentours ressemblaient à la mer, quand elle est belle et calme. Il leur restait les blés et le bois pour l'hiver. La mer qu'il n'avait jamais vue. J'en lis un quatrième et c'est parce que il parle des femmes. Et vous savez que ce sont les femmes qui ont entrepris les travaux, non seulement dans les basses-cours, mais aussi dans les champs, à la place des hommes partis à la guerre. Ici les femmes. Ici les femmes aiment les hommes. Elles les querellent, les cajolent, leur servent à boire tout le long du jour. Parlent haut et fort, ne brisent le cou qu'aux poules et aux lapins. Eux n'en font qu'à leur tête, perchent leurs yeux dans les arbres avec les morceaux de ciel. Les voix des femmes sont des chants d'oiseaux. Plus vieux, ils deviennent sourds. Les enfants, ils les ont eus par dix, mais aujourd'hui, un seul suffit. Comme suffit la vue des collines qui n'ont pas bougé depuis des siècles, juste un peu plus d'arbres. Des Montpellés, des vaches, pareilles à des taches de soleil, et des sommets qui feignent de s'éroder dans la brume. Ils en sont bien, tous et toutes, de cette grande chaîne de volcans au sang pétrifié. Voilà, je m'arrête là, pour ce beau, très beau recueil de poésie, Retour au pays de Claire Garnier-Tardieu, qui devient vraiment une personne à rencontrer, Claire Garnier-Tardieu, édition des Deux Rues, qui vient de remporter le prix de la poésie Histoire et Mémoire 2021. Il coûte que 10 euros. Pour le commander, https://editions2, rue.com. Voilà, je répète, www.editions2, rue.com. Voilà, et vous pourrez comme ça lire ce magnifique recueil de poésie. Alors j'enchaîne avec un autre livre important, D'une aube à l'autre, de Laurence Tardieu, qui vient de paraître aux éditions Stock, une empreinte indélébile et inoubliable. C'est vrai que Laurence Tardieu, avec ce livre, D'une aube à l'autre, qui est un récit, nous donne une empreinte indélébile et inoubliable. Il nous plonge en pleine terreur et finalement en pleine joie après 158 jours de traitement. Le 17 mars 2020, alors qu'Emmanuel Macron a déclaré le confinement total avec interdiction des regroupements extérieurs et des réunions familiales ou amicales, le 17 mars 2020, Adam, oui, il a déclaré la guerre, il a parlé de guerre au Covid-19. Adam, le petit garçon de Laurence, qui a 4 ans et demi, est hospitalisé en urgence à l'hôpital Robert Debré de Paris. Le médecin Claire C annonce une leucémie aiguë avec 1 an d'hospitalisation. Une phrase et la vie tout entière bascule soudain. C'est ce qui arrive à Laurence Tardieu et à sa famille. Surtout si en plus le personnel soignant vous dit que pour guérir, il faut des traitements adaptés à cette maladie extrême, mais aussi soigner le mental de l'enfant. Aussi, Laurence va tout changer de sa vie d'avant et entourer, accompagner Adam chaque jour par sa présence active dans ce grand combat, comme une louve. Elle dit d'ailleurs qu'elle l'ignorait, mais le 18 mars 2020, dans la chambre avec son fils, qu'elle n'était pas seule, qu'il y avait derrière elle une puissance rugissante. Traversée par le courage de toutes les mères depuis les premiers temps du monde qui ont tout fait pour sauver la vie de leurs enfants. Plus tard, de la terreur encore plus, lorsque la température de Adam oscille entre 39 et 41 de fièvre, formant ce qu'on appelle une fièvre en plateau. Inexplicable, voilà, et que les médecins devront prendre de grands risques pour stopper cette fièvre. À cause du confinement, personne, hors son père, le père de Adam, qui s'appelle Gilles, et qui alterne avec Laurence, elle est la journée, lui vient la nuit, ni ses sœurs, il a deux sœurs, Adam, Gaïa et Josepha. Josepha, puisqu'ils sont confinés dans leur maison, qui fait du piano avec passion. Ni Céline, sa meilleure amie, ni son père qu'elle retrouve à ce moment-là, ne peuvent venir à l'hôpital et voir physiquement Adam. Ils réagissent bien sûr par téléphone, par message, par mail, par courrier, mais ils ne peuvent pas venir soutenir Laurence Tardieu et voir physiquement Adam. Deux mondes qui ne pouvaient pas se rejoindre. Comment donc Laurence faisait-elle pour réussir à passer de l'un à l'autre, sortir du bunker, car cet hôpital était un bunker, et revenir au monde des vivants, ne serait-ce que pour faire les lessives et se laver. Tout cela d'une aube à l'autre, figure bien dans ce témoignage unique, comme de la qualité du personnel soignant, qui ont considéré Adam comme un vrai champion dont il pouvait être fier. Un autre grand moment, lorsqu'après 3 mois et demi, hein, c'est long 3 mois et demi, Adam a pu sortir de l'hôpital, retrouver sa maison et ses sœurs. Mais ce n'était qu'un court répit, car il est envisagé pour guérir, pour soigner, pour sauver cet enfant, une greffe de moelle osseuse. Avec quelqu'un de compatible, bien sûr, et c'est sa sœur aînée Gaïa, qui est compatible avec lui. Il suffit simplement que celle-ci accepte d'être donneuse. Oui, eh bien, elle va, pour réussir à sauver son petit frère, accepter d'être donneuse. Alors, est-ce que la greffe va prendre ? passe le mois de juillet jusqu'au mois d'août, et puis la lumière du jour nous étreint pareillement. Avec cette famille retrouvée, nous, les lecteurs attentifs de ce témoignage unique, oui, nous sommes au bord des lames. C'est une histoire de renaissance. Au bord des lames, c'est vrai. Et je peux vous le garantir. Et le jeudi 20 août, en fin de matinée, chacun des membres de l'équipe d'hématologie pédiatrique avait le visage bouleversé d'avoir fait revenir un enfant du monde des ténèbres, de le ramener à la vie. Alors en outre, bien sûr, je ne veux pas tout dire de ce livre, mais Laurence Tardieu véhicule tant de choses vraies, comme elle parle de la nature omniprésente, elle fait du vélo, et un certain rosier auquel elle est très attachée, et des poèmes qui ont su contenir sa détermination, qui, comme la vie, est extraordinaire. Voilà. Alors, un dernier poème qui est de Philippe Jacotet, qu'elle signale dans ce témoignage unique. Et puis ce fragment de Philippe Jacotet, « Accepter ne se pas ». Voilà, quand ça vous tombe dessus, on n'arrive pas à accepter. « Comprendre ne se peut ». On ne peut pas vouloir accepter ni comprendre une telle chose grave et mortelle même. On avance peu à peu comme un colporteur d'une aube à l'autre. Voilà pourquoi le titre de ce livre, de ce témoignage inoubliable, d'une aube à l'autre, de Laurence Tardieu. Voilà, c'est à Philippe Jacotet qu'elle a emprunté ce titre, d'une aube à l'autre, qui vient de paraître aux éditions Stock. Voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire, comme je l'ai dit. Le deuxième roman, enfin, après le premier qui était un recueil de poésie, le deuxième roman s'appelle « Un avenir, une espérance » et c'est de Thierry Le Gall aux éditions du Cerf. Ce livre est une passerelle à deux niveaux et c'est une main tendue aussi par son témoignage vis-à-vis des autres chrétiens de France. Nous sommes en 2011, une année charnière où Thierry Le Gall vivra un virage d'une violence inouïe. Plus exactement en août 2011, qui s'annonçait pourtant paisible. Une période de sa vie paradoxale, pendant laquelle il va à la fois connaître les abîmes du désespoir et en même temps les prémices d'une destinée qu'il n'avait jamais imaginée. Cela faisait 4 ans qu'il avait démissionné de ses responsabilités importantes chez Ferrero France, vous savez, ce grand groupe de l'agroalimentaire italien, où il avait travaillé près d'une 20aine d'années, avec un très très bon salaire. Pourquoi quitter une telle situation enviable ? Il eût fallu à lui et à Sylvie, son épouse, ils forment vraiment un couple très soudé, 2 années de prière et de réflexion avant de se décider à franchir le pas avec leurs 4 fils, ils ont 4 enfants, 4 fils, de quitter cette place en or pour la simplicité du ministère pastoral et les modestes indemnités accordées au ministre du culte protestant. C'est au bout de la terre, dans le Finistère, voilà, qu'il a ressenti dans son cœur un appel vibrant à servir complètement, totalement Dieu. Maintenant, dit l'Éternel dans le livre de Josué, qu'il cite dans ce livre, dans ce témoignage, « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. C'est lui qui nous a fait sortir, nous et nos pères, d'Égypte, de la maison d'esclavage. » C'est lui qui a réalisé sous nos yeux ses grands prodiges et qui nous a gardés pendant tout le chemin que nous avons parcouru et parmi tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Après une prospection de nombreuses offres de formation proposées par les instituts bibliques, son choix à lui et à Sylvie, son choix s'est porté sur la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. 4 années de formation, doctrine chrétienne, éthique et puis de Saint Paul aux Corinthiens, que nous avons entendu récemment, plus une formation pastorale pratique, en tout 7 à 9 années au total de formation, voilà, d'études. Notre parcours ecclésial, dit-il, s'étant déroulé majoritairement au sein de ce que l'on appelle, de ce qu'ils appellent des assemblées de Dieu, ils ont choisi d'y ancrer leur engagement. Et c'est ainsi qu'il est devenu pasteur tout d'abord en Normandie, au Havre, puis en Bretagne, à Saint-Brieuc, où il se trouve actuellement. Alors le drame terrible, j'ai parlé qu'il y avait eu un drame terrible qui est survenu en 2011, la mort de leur fils David, qui a mis fin à ses jours. Il avait 24 ans. Chose que des parents, même avec la foi au Christ ressuscité, ne peuvent accepter. Alors ils ont essayé de continuer à vivre, mais ça n'allait pas vraiment. Et un an après, ils admettent quand même une aide providentielle. La providence a beaucoup joué dans le parcours de Thierry Le Gall. Afin de consolider leur processus de deuil, avec une restauration physique, psychique, spirituelle, eh bien, ils acceptent, ils vont partir en Lozère, dans un centre de convalescence, dirigé par Eric et Rachel, des amis. Ça va durer 5 jours, voilà. Et le dernier jour, on leur demande à chacun des participants à ce colloque une marche solitaire de 3 heures. Chacun, pas ensemble, mais vraiment chacun marche en solitaire pendant 3 heures. Et c'est au bout de la 3e heure, voilà, une indication précieuse, au bout de la 3e heure, que Thierry Le Gall entend une voix qui lui parle. Et celle-ci, cette voix lui dit « Sois mon témoin auprès des parlementaires et de la classe politique. » Chose totalement incongrue, inconnue pour lui. Il ne fait pas partie d'un parti plus qu'un autre. C'est personnel. Enfin, je veux dire, il ne connaît pas du tout les parlementaires. Il ne les fréquente pas non plus. En plus, les politiques ignorent tout ou presque des organisations, des minorités protestantes évangéliques. Donc, il eut fallu 3 années de recherche et d'études, de recherche à côté avec la Suisse, avec l'Allemagne, comment ça pouvait se passer, et d'études pour devenir aumônier, enfin directeur du service pastoral auprès des parlementaires. Thierry Le Gall est un homme, voilà, important, et qui travaille au sein d'un élément important, voilà, qui travaille au sein du Conseil national des évangéliques de France, qui, eux, ont accepté qu'il a un rôle majeur au service pastoral auprès des parlementaires. Et cela se passe beaucoup mieux qu'il ne pouvait le penser au départ. Car ces parlementaires, de tout, que ce soit aux Champs-Élysées, à l'Élysée, ou dans la Chambre des députés, ils se retrouvent, ce sont des hommes assez seuls, en concurrence, vraiment effroyables, les uns vis-à-vis des autres. Il suffit qu'ils disent un mot qui soit mal interprété pour que des cabales se fassent. Donc, ces hommes, ces femmes, eh bien, ils ont besoin ils ont trouvé un besoin avec ce tête-à-tête, avec ce Thierry Le Gall, qui leur parle de Dieu. Voilà. Parce que, même si notre société est laïque, ne se veut pas croyante ou pratiquante, eh bien, chacun reçoit quand même plus ou moins cet appel de Dieu, et il doit trouver un correspondant comme Thierry Le Gall pour leur en parler. Voilà, donc c'est un livre audacieux, lumineux, qui donne envie de déplacer des montagnes, courber les lignes droites, croire aux joies improbables. Thierry Le Gall, par ce livre, nous permet de mieux connaître l'évangélisme, cette branche montante du protestantisme, si méconnue, mais qui nourrit tant de fantasmes chez nous en France. Voilà, je voulais donc vous présenter ces 3 premiers livres. On va écouter une pause musicale avec Jean-Sébastien Bach et une partie de son concerto en mi mineur. Thank you. Voilà, nous arrêtons cette belle musique de Jean-Sébastien Bach, qui venait très, très bien, et qui, y a un clin d'œil avec un livre que je vous présenterai bientôt, où on parle de musique, justement, de cette musique de Jean-Sébastien Bach. J'enchaîne avec un quatrième livre. C'est un roman de Marco Balzano. Un auteur italien que je découvre ou redécouvre quand je reviendrai, c'est le titre de son roman qui vient de paraître aux éditions Philippe Ray, qui est pour moi un éditeur très précieux, Philippe Ray. Marco Balzano est né à Milan en 1978, où il vit et travaille comme professeur de lycée. Ses deux premiers romans, couronnés par plusieurs prix, ont reçu un très bel accueil des lecteurs et des critiques. Prêt à tous les départs, édité par un ami, La Fosse aux ours, en 2015, Le dernier arrivé, chez Philippe Ray, en 2017, et son roman Je reste ici, paru en 2018, qui a été finaliste du prix Strega, le grand prix italien, et a obtenu le prix Méditerranée étranger, que j'ai reçu aussi, mais que je vous présenterai le mois prochain, car je ne peux pas présenter deux livres en même temps. Alors, quand je reviendrai de Marco Balzano aux éditions Philippe Ray, c'est un récit bouleversant sur la vie de Daniela, une mère partie de Roumanie pour travailler à l'étranger, en Italie, à Milan. Dans une première partie, car c'est un roman choral à trois voix, dans une première partie, c'est Manuel, le garçon de 16 ans, qui parle. Il est avec sa sœur Angelica, qui a 24 ans, et ils ne comprennent pas pourquoi leur mère est partie en pleine nuit, sans prévenir personne, même pas leur père, un homme désœuvré au chômage depuis des mois, et qui se console malheureusement avec la bouteille, ce qui n'arrange pas les choses. Comme de nombreuses femmes de sa génération, elle est résolue de quitter la Roumanie post-communiste pour l'Italie, où il serait possible de s'enrichir très rapidement. Elle espère ainsi pouvoir payer des études à ses enfants et leur offrir un avenir. Mais la réalité est bien différente. Et les mois d'absence difficiles pour Manuel en particulier, car il était très proche de sa mère, deviennent des années. En deuxième partie, on entend la voix de Daniela, elle-même, qui explique ce que fut la réalité de sa vie à Milan. Elle n'avait pas vraiment de métier, donc elle a pris des petits boulots d'aide-soignante, plus ou moins aide-soignante, d'aider les petits vieux à réagir, à vivre chez eux, mais qui avaient besoin de soins, de nettoyage, de tout ça. Donc c'est pas réjouissant, mais c'est ce qui lui a permis quand même de gagner de l'argent et d'envoyer de l'argent chaque mois à sa famille pour que les enfants puissent faire des études. Tout cela, donc, on le retrouve dans cette deuxième partie. Et il y a eu aussi le fait qu'elle doit revenir en Roumanie. Elle doit revenir parce que Manuel, son fils, donc, a eu un terrible accident avec une mobylette prêtée par un ami, son meilleur ami. Avec la vitesse, il ne sentait plus, il se sentait heureux, et puis il n'a pas vu qu'il a fait un vol plané, et il se reçoit très mal sur la terre, il devra être hospitalisé, et c'est pour ça que Daniela, sa mère, revient pour s'en occuper, parce qu'il est immobilisé, dans un coma au départ profond, il ne réagit pas, mais contre l'avis du médecin, le docteur Petron, c'est elle ne peut s'éloigner de l'hôpital, va me trouver un local où elle pourra dormir, voilà, contre l'avis du médecin, mais qui va, pour finir, va accepter, parce qu'elle veut absolument veiller son fils, lui parler, même lui faire écouter de la musique qu'il aime pour le guérir de ce traumatisme crânien. Et puis d'autres membres qui ont été amochés par ce vol plané. En troisième partie, eh bien, c'est Angélica qui avoue ce qu'elle a sur le cœur. Et dans ce merveilleux roman, oui, comment, avec son frère, elles ont pu réagir à l'absence de leur mère, ce qu'elles ont pu faire, comment elles ont pu aussi soutenir un peu son père qui a trouvé, qui est parti aussi, qui a trouvé du travail dans ce merveilleux roman. Manuel, car Manuel va réapprendre, va guérir et va réapprendre à vivre, à marcher, à se déplacer, voilà. Marco Balzano explore l'univers des travailleuses de l'ombre. Et elles furent nombreuses, ces travailleuses de l'ombre. Donc elle trouve avec lui un regard attentif et un témoignage bouleversant, capable d'une humanité souvent absente de nos sociétés. C'est une histoire bouleversante de sacrifice et d'humiliation aussi, parce que leur vie à ces femmes de l'ombre n'était pas vraiment réjouissante, mais elles le faisaient, car c'est aussi une raison de sacrifice pour leur famille, mais aussi de rêve et d'espoir en un avenir meilleur. Marco Balzano est un romancier vrai et pur qui examine le présent et se charge encore une fois de recueillir des fragments d'humanité, d'arracher des êtres, des choix et des destins aux engrenages du système. Voilà pourquoi je voulais absolument vous parler de ce nouveau roman de Marco Balzano, Quand je reviendrai, édité par Philippe Rey. J'ai maintenant aussi un cinquième livre prévu. J'aurai aussi un sixième, mais qui était imprévu. Mais j'aurai, voilà, un cinquième qui était prévu et qui va bien dans ce thème de vie bouleversée, de drame, et puis un changement de cap. Le cinquième livre est un roman qui se déroule en Espagne, dans le delta de l'Ebre. Et c'est pour moi une pure merveille. Ça s'appelle « L'autre moitié du monde ». C'est de Laurine Roux aux éditions du Sonneur. C'est vraiment, Laurine Roux est pour moi une révélation par son écriture bouleversante, poétique, tout, sensuelle, vraiment très très belle. Une langue, voilà. Alors, dans « L'autre moitié du monde », Laurine Roux aux éditions du Sonneur, roman qui, je l'ai dit, est une pure merveille, il nous plonge en Espagne dans les années 1930. Et puis ensuite, il met en scène des paysans ouvriers, et c'est ça l'originalité de son roman, une sorte de témoignage. Elle met en scène des paysans ouvriers qui s'éreintent dans les rizières du delta de l'Ebre, pour le compte de la noblesse, de l'impitoyable marquise qui habite le château, avec son père est plutôt parti à la guerre, mais avec son fils. Et parmi eux grandit Toya, l'héroïne de ce roman, gamine ensauvagée, qui connaît les parages comme sa poche, donc elle est le plus souvent dans la campagne, dans la forêt, dans... Mais le pays gronde, Voilà, à cette époque, le pays gronde partout. La lutte pour l'émancipation sociale fait rage jusqu'à gagner ce bout de terre que la guerre civile, oui, en Espagne, c'est la guerre civile, s'apprête à faire basculer. Car cette marquise a tous les droits, même de considérer ces hommes et ces femmes qui travaillent et qui vivent dans des baraques comme ses esclaves, qu'elle peut révoquer comme elle veut, selon son bon plaisir. Elle leur donne le salaire qu'elle veut, voilà. C'est même pas considéré, déclaré, c'est accepté plus ou moins par eux, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Alors autour de Juan, qui est le père de Toya, il y a Pilar, voilà, un très beau personnage. C'est Pilar, c'est sa mère, sa maman. Mais aussi, elle a des talents de cuisinière, ce qui fait qu'elle travaille aussi pour la marquise au château. C'est elle qui, lorsqu'il y a des repas, qui assure les repas. Il y a Horacio aussi, l'instituteur, qui va l'initier à la musique. Oui, je vous ai parlé de la musique de Jean-Sébastien Bach, qui sera pour elle une révélation, mais aussi elle va peu à peu, avec lui, apprendre à lire et à écrire. Et puis il y a José, qui est un avocat qui vient de Barcelone, où là-bas la vie a déjà changé en faveur des républicains. C'est un avocat qui pense que le vent tourne et que des régions entières doivent se partager les terres, la terre. Et une prise de conscience sera faite par tous ces gens lorsque Pilar, dont je l'ai dit, cuisinière excellente au château, reviendra un jour en se vidant de son sang. Car au château, le jeune Carlos abuse d'elle régulièrement. Elle est obligée de se faire plus ou moins charcuter par une femme pour ne pas avoir d'enfant. Celle-ci la prévient que si ça continue, bien elle va en mourir. Et c'est ce qui va se passer. Elle va perdre son sang et mourir. Donc c'est Carlos qui, en abusant d'elle, a tué cette femme excellente, merveilleuse, Pilar, et ce qui va provoquer une révolte, une grève et une révolte salutaire de tous. À ce moment-là, ils sont pour la révolte, ils vont détruire le château, ils vont s'attaquer, la marquise et Carlos vont se sauver par un souterrain. C'est aussi une révolte mortelle, car malheureusement, on connaît l'issue de cet affrontement entre les républicains et Franco et les nationalistes. Et pour finir, ce seront les républicains, même venus d'ailleurs, qui seront écrasés par les nationalistes. Et Carlos, le traître, reviendra pour faire fusiller tous ces hommes bien. Alors je ne dévoile pas comment ce livre, ce beau livre, ce beau témoignage se termine. De son écriture sensible, habitée par la sensualité de la nature omniprésente, de la poésie qu'on retrouve dans son écriture, et de la musique, je dis, celle de Jean-Sébastien Bach, mais la jeune héroïne Toya va recevoir un harmonica où elle pourra jouer aussi dessus. Donc, Laurine Roux nous conte dans ce livre merveilleux l'autre moitié du monde, celle de ces pauvres gens, de ces travailleurs, de ces pauvres gens, l'épopée d'une adolescente qui va s'élever d'un pays, d'une époque où l'espoir fou, voilà, d'un renouveau croise malheureusement les désenchantements les plus féroces. Une histoire d'amour, de haine et de mort absolue. Ce livre, L'autre moitié du monde de Laurine Roux, édité par Le Sonneur. Que je vous dise que Laurine Roux est née en 1978, elle vit dans les Hautes-Alpes, donc elle connaît bien quand même la campagne, où elle est professeure de lettres modernes. Son premier roman, Une immense sensation de calme, a reçu le prix Révélation de la Société des gens de lettres. Le Sanctuaire, paru l'an dernier, a reçu le grand prix de l'imaginaire. Voilà ce que je pouvais dire sur Laurine Roux. Alors, effectivement, il me reste encore quelques minutes. Et donc, je vais vous présenter une nouveauté littéraire. C'est le sixième livre. N'avoue jamais, de Lisa Gardner. C'est une nouveauté littéraire qui fait suite au précédent Retrouve-moi de Lisa Gardner qui était paru en 2021. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis que c'est une suite. Dans lequel Lisa Gardner, maître en matière de suspense psychologique, s'initie l'un de ses thrillers les plus ambitieux sur l'infamie et ses inavouables secrets qui vont provoquer bien des dégâts et même des meurtres, parfois des meurtres. Il y en aura deux dans ce roman. Et dans ce roman, si l'on retrouve bien Dédé Varenne, qui est son enquêtrice de choc, et son mari Alex, et leur petit garçon Jack, qui est un nouveau compagnon de jeu, un jeune chien, ce qui met pas mal de pagaille dans la maison. On retrouve aussi Flora Dan. Flora Dan, que l'on rencontre dans le précédent livre, Retrouve-moi. Elle a été enlevée, violée, torturée, enfermée pendant des années dans un cercueil dont elle ressortait de temps en temps quand le prédateur Jacob voulait la voir. Libérée grâce au FBI qui va attaquer la maison dans laquelle elle était enfermée, elle est survivante. Mais elle souffre encore aujourd'hui, 3-4 fois par semaine, de l'emprise de Jacob, qui est mort, mais de son emprise. C'est ce que l'on nomme le syndrome de Stockholm. Et dans ce livre, comme Dédé Varenne la prend sous sa coupe pour en faire une indicatrice utile, comme avec son expérience, elle peut l'aider dans ses enquêtes, elle va donc participer à cette nouvelle intrigue, nouvelle enquête, énigme, et être vraiment très très active, en particulier à la fin de ce roman. Un homme est abattu de 3 coups de feu à son domicile lorsque la police arrive sur place. Ça, c'est dans le nouveau roman « N'avoue jamais » de Lisa Gardner, qui vient de paraître chez Albin Michel. La nouvelle héroïne s'appelle Evelyne, mais on dit Evie, sa femme Evie, enceinte de 5 mois, l'arme à la main. Donc la police l'arrête. Evie n'est pas une inconnue pour l'enquêtrice Dédé Varenne, car il y a des années, elle avait été accusée d'avoir tué son propre père d'un coup de fusil alors qu'elle était âgée de 16 ans. Elle avait finalement été innocentée, car la justice ayant conclu un accident de chasse. Simple coïncidence entre cette affaire d'autrefois et puis celle d'aujourd'hui où on la retrouve avec une arme à la main. En fait, heureusement, Evie est-elle coupable ou victime de son passé ? C'est la grande question qui se pose pour la police, mais aussi pour le lecteur, les lecteurs. Mais heureusement, des témoins ont entendu des coups de feu 8 minutes avant que la police n'arrive. Et c'est ce qui va permettre à Evie, alors qu'Evie tire sur l'ordinateur de son mari. Pourquoi ? Bon, il y a bien des mystères, voilà ce que j'ai dit au début, il y a des secrets, des doutes, enfin des... Voilà, on découvre en fait qu'avec son père, qui était un mathématicien, savant, génial même, qui a dû même avoir autre chose, un poste important ailleurs, parce qu'ils avaient une superbe villa coloniale, et puis il gagnait bien sa vie, donc il a mis de l'argent de côté d'ailleurs. En fait, justement, pour éviter le scandale, lorsque elle, Evie et sa mère sont revenues de course et qu'elles ont trouvé le père mort, eh bien, elles ont fait croire à un accident de chasse pour éviter un scandale, pour éviter, voilà, pour terminer un petit peu l'affaire. Mais ça, on le découvre seulement maintenant. Et puis, on découvre aussi qu'entre Evie et puis son mari, même s'ils étaient vraiment très très heureux de la naissance de cet enfant, parce qu'ils avaient essayé depuis quelque temps et ils n'y arrivaient pas, et enfin, ça y est, Evie est enceinte de 5 mois. Et donc, mais alors, et pourquoi est-ce qu'elle a tiré sur l'ordinateur de son mari ? C'est qu'elle avait découvert certaines choses qu'elle ne voulait pas que la police découvre. En fait, c'était des choses un peu mystérieuses parce qu'elle ignorait complètement que son mari vivait sous un nom, un faux nom, ou que son vrai nom n'était pas celui qu'il prétend être, mais qu'il suivait de très près une affaire très ancienne concernant son père qui était dans la police. Voilà. Je vais beaucoup bientôt m'arrêter. Ce livre, vous dire que ce livre fait 489 pages, mais que quand vous allez le commencer, vous ne pourrez pas l'arrêter. N'avoue jamais de Lisa Garner, qui est vraiment le numéro un de cette littérature policière en Amérique, mais on peut dire aussi qu'en France aussi, à lire. On ne peut pas le lâcher un instant, tant il y a de rebondissements qui vous entraînent jusqu'à la fin chaotique, mais aussi une fin pleine de joie, où pour finir, Evie et Dan, Flora Dan, vont se retrouver associés et puis vont aller voir la mère, enfin, la mère de Flora Dan, parce que cette dernière qui va participer, comme je l'ai dit, vraiment activement pour sauver Evie et son enfant, Eh bien, c'est pour ça que ce livre a une connotation particulière, car pour finir, c'est la vie protégée de cet enfant qui va naître et qui sera aimé, et voilà, qui termine la fin de ce grand roman « N'avoue jamais » de Lisa Gardner. Et je m'arrête là en vous disant, eh bien, bonne lecture à vous toutes et à vous tous. Au mois prochain, donc je l'ai dit, j'ai présenté un recueil de poésie vraiment très très bien, « Retour au pays » de Claire Garnier-Tardieu, aux éditions des Deux Rues. Laurence Tardieu, ce n'est pas la même famille, d'une aube à l'autre aux éditions Stock. « Un avenir, une espérance », chronique au pluriel d'une aumônerie parlementaire protestante évangélique. Ah oui, j'ai peut-être pas dit que c'était le CERF. Et puis notre ami Gilles Paris qui me l'a fait parvenir, Thierry Le Gall. Et puis Marc Balzano, quand je reviendrai aux éditions Philippe Ray. Et puis Laurine Roux, une révélation, l'autre moitié du monde, aux éditions du Sonneur. Et je vous dis donc au mois prochain. Au revoir.